France Culture.
Et le spectacle reprend, veuillez retrouver vos places. À 13h, comme promis, on discutera avec Ami de Courtier, Blaye Matéoutrias de la compagnie Barreau des Valmets. Tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le festival d'Angoulême, grand messe de la bande dessinée, ouvrira sa 52e édition demain, le 30 janvier. Mais l'ambiance est morose. Une enquête qui vient de paraître dans le journal L'Humanité étrille non seulement la ligne éditoriale, mais dénonce aussi des malversations financières et des maltraitances. Depuis, les auteurs de BD manifestent virtuellement leur inquiétude. Ils dessinent et condamnent le directeur du festival, Franck Bondou. Les dérives du festival d'Angoulême, c'est le dossier du Point Culture du jour. Lucie Servin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous venez de faire paraître une enquête dans L'Humanité, une enquête au long cours qui dévoile des dysfonctionnements et des dérives éditoriales. Alors peut-être pour commencer, ce qui a pu surprendre à l'annonce de la programmation cette année d'Angoulême, c'est le partenaire principal du festival, à savoir la chaîne de fast-food Quick. Alors sous quelle forme, très concrètement, ce partenariat-là va-t-il apparaître pendant le festival ?
Très concrètement, il apparaît déjà sur les affiches, sur toute la communication du festival. Le partenariat Quick qui se décline à travers des propositions qui sont menées par la chaîne de restauration rapide. Ils seront dans le quartier jeunesse, il y a un saloon de réalité virtuelle dans la rue Hergé et il y a ces menus burgers en forme d'étoile. Donc voilà comment ils seront présents sur le festival. Et je sais aussi que le restaurant Quick du centre-ville, en face de l'hôtel de ville, a été restauré pour l'occasion.
Alors, on le sait, les festivals, aujourd'hui, les festivals culturels ont des partenariats avec des marques. Là-dessus, c'est pas le nœud du problème, mais le partenariat avec Quick, il a quand même beaucoup surpris, notamment parce que c'est quand même une enseigne de malbouffe. Et notamment, la justification de lier Quick à la bande dessinée paraissait sortir un peu de nulle part. Comment vous avez compris, vous, ce partenariat-là ?
Justement, je pense qu'il est à la fois choquant pour toute une profession dans un festival. Le festival de bande dessinée d'Angoulême, il faut comprendre que c'est un festival qui est un rendez-vous annuel de tout un milieu professionnel, des artistes et du public. C'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas ne pas aller au festival de la bande dessinée. Quick, ça représente pour beaucoup un retour en arrière. Déjà, Quick a été présenté pendant la conférence de presse avec les missions qui sont données au festival pour aller vers les jeunes publics.
Ah oui, d'accord. Donc, et le partenariat Quick, l'idée, c'était d'aller vers les enfants ou vers les ados, quoi.
Tout à fait, c'est-à-dire d'ouvrir à la jeunesse le festival. Enfin, c'est des missions qui sont dans des missions d'éducation, des missions. Et c'était lié d'ailleurs avec une étude du CNL qui dit comment amener les jeunes à la lecture. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que ça a été présenté. Donc déjà ça, c'est problématique, y compris pour les financeurs publics, y compris pour la ville d'Angoulême qui est engagée auprès des producteurs locaux.
Oui, qui est engagée financièrement sur le festival, la ville.
Oui, complètement. C'est le financeur majoritaire de la ville. Mmh. Et qui finance entre la ville et l'agglo, ça représente 1 million d'euros. Mmh. Donc, il y a ce point-là. Et ensuite, pour les professionnels, c'est vrai que le Festival d'Angoulême a permis aussi la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art et que lier Quick à la bande dessinée, ça ruine, si vous voulez, tous les efforts qui sont faits pour valoriser l'artistique, les auteurs et le travail des éditeurs pour faire reconnaître la bande dessinée.
Mais alors justement, quelle est aujourd'hui la ligne artistique défendue par le festival ?
Justement, c'est ça qui est un peu problématique, c'est que elle est un peu illisible, cette programmation artistique. On a 8 expositions, ces 8 expositions, il y en a 2 qui sont décidées par des organismes tiers, le prix Goscinny, qui est le prix du scénario, donc avec Julie Birman, et puis le grand prix qui est Posy Simmons cette année, et qui est là et décidé par un vote de professionnels et d'auteurs et d'autrices. À côté de ça, on a en fait une espèce des propositions artistiques qui semblent se décider un petit peu sans cohérence, enfin sans présentation globale. Et c'est aussi ce qui était problématique avec la présentation Quick lors de la conférence de presse, c'est que finalement, l'artistique s'écrasait derrière l'annonce surprise de ce partenariat. Et ça, c'est problématique puisque on ne comprend plus entre une programmation qui est tournée vers l'international, avec par exemple des expositions qui sont consacrées à des séries à succès, qui sont en fait en opposition avec la politique du festival qui a toujours été de mettre en avant les auteurs. Je rappelle que le premier festival Angoulême en 74, l'affiche était signée par Hugo Pratt et c'était déjà une manière de faire reconnaître une autre forme de bande dessinée, plus comme un héros de série, justement.
Là, vous avez l'impression que les auteurs sont mis à l'amende ou sont clairement la cinquième roue du carrosse ?
Écoutez, par exemple, je vous donne l'exemple de Vinland Saga. On fait une exposition donc sur une série et non pas sur celui qui est mis en avant, c'est pas Yukimura. Même s'il y a des masterclass derrière, elle est présentée comme ce succès de librairie, la saga viking du mangaka. De la même manière, pour Superman, on est en droit de se poser la question de comment a été décidée cette exposition dans la mesure où il y a un film Superman qui sort en 2025. C'est des questions comme ça qui se posent et qui se posent d'autant plus que nous, en tant que regardeurs, contenteurs d'essayer de comprendre ce qui se passe, les interlocuteurs changent trop vite. La direction artistique arrête pas de tourner avec des gens qui sont compétents, mais on n'a pas d'interlocuteur, on comprend pas bien ce qui se passe en fait.
Oui, et comme ils tournent beaucoup, ils n'ont peut-être pas le temps de mettre en place une politique éditoriale qui aurait du sens. Si chaque année on a un directeur artistique différent, c'est difficile d'avoir de la cohérence.
Tout à fait, et c'est d'autant plus, moi c'est ce qui m'a un peu interloqué, puisque je connais la qualité des directeurs artistiques, et il y a une forme d'incohérence et de contradiction entre leur volonté et ce que présente ensuite le festival. Et c'est ça un peu qui m'a interrogée et qui m'a amenée à pousser un peu cette enquête.
Mais quand on vous lit, justement, quand on lit cette enquête dans l'Humanité, on a aussi l'impression que finalement, de festival, Angoulême devient un salon dans le sens où finalement ça devient un lieu de promotion.
Il faut toujours évidemment nuancer, hein. Mais effectivement, c'est un salon. De toute façon, c'est un salon puisqu'il y a d'énormes stands dans lesquels les éditeurs vendent leurs livres. Après, ce qui est sûr, c'est ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que il y a une question d'un engagement d'un festival qui va vers la création, et ensuite il y a cette notion qui est de la coproduction. C'est-à-dire que quand on fait des expositions qui sont coproduites avec des éditeurs, il faut bien que ce soit fait en bonne intelligence et en toute transparence, parce que sinon, forcément, des éditeurs poids lourds qui auront plus d'argent pourront mettre en avant plus de titres que d'autres expériences et d'autres éditeurs qui ont moins d'argent.
Oui, oui, c'est ce que vous montrez dans cette enquête. C'est à la fois une dérive éditoriale et une opacité budgétaire et même des dérives comportementales. Hein. Vous citez de nombreux cas de burn-out, mais je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à la lecture de votre enquête qui est apparue dans le journal L'Humanité. Merci beaucoup, Lucie Servin.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une nouvelle collectivité publique va supprimer ses aides à la culture.
Oui, après la région Pays de la Loire qui a réduit drastiquement ses aides à la culture pour l'année 2025, c'est au tour du département de l'Hérault de lui emboîter le pas. Le journal Libération vient en effet de révéler que son président PS, Kléber Mesquida, a annoncé lundi une coupe de l'ensemble du budget de la culture, soit entre 5 et 6 millions d'euros. Si l'information se confirme, l'Hérault deviendrait alors le seul département français qui consacrera 0 euros à la culture.
Gastronomie à présent, la France vient de remporter le Bocuse d'or.
Oui, c'est Paul Marcon qui a gagné hier ce fameux concours de cuisine internationale créé par Paul Bocuse en 1987. Le chef, âgé de 28 ans, a séduit le jury avec sa tourte croustillante d'épaules de chevreuil braisées au vin rouge, foie gras et champignons sauvages. Je vois que vous avez faim, Marie.
Bon.
Qu'il a dû réaliser dans un temps imparti de 5h30. Paul Marcon officie dans le restaurant triplement étoilé de son père, Régis Marcon, situé en Haute-Loire et qui fut lui aussi lauréat du Bocuse d'Or il y a tout juste 30 ans. C'est la 9e fois qu'un chef français remporte ce concours culinaire.
Et pour finir, Marie, débute aujourd'hui la folle journée de Nantes.
Le célèbre festival de musique classique se déroule jusqu'au 2 février et met en avant cette année les villes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la musique. Venise, Londres, Vienne, Paris ou New York. Depuis sa création en 1995, la folle journée continue son objectif de désacraliser la musique classique en organisant des concerts à bas prix et sur un temps court, environ 45 minutes. Une formule qui marche puisque chaque année, 140 000 billets sont vendus pour les 260 70 concerts proposés. Mais malgré ce succès populaire, le festival a appris en novembre dernier la suppression de ses aides par la région Pays de la Loire.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.